Mimi, sorte tes aiguilles et ta laine, il va me falloir un bonnet.
Oula, ça a l'air urgent.
J'ai les oreilles gelées, j'ai peur de perdre l'audition, de ne plus jamais pouvoir écouter l'agité du local.
Et ne plus entendre mes mots doux, ça ne t'inquiète pas.
Les amoureux de littérature frétillent déjà à l'annonce de ce prochain rendez-vous donné par l'association Lecture en Tête avec cette nouvelle édition du festival Premier roman et des littératures contemporaines qui aura lieu du 4 au 7 avril à Laval. Et cette année, nous en sommes donc à la 32e édition. Avec moi aujourd'hui pour vous en parler, Anne-Sophie Denoux. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chargée de programmation et de coordination à l'association Lecture en Tête. Nous regardons ensemble cette très belle programmation dans quelques instants. Dans la suite de cette émission, nous allons du côté d'Angers avec notre reportage Pensée locale de la semaine. On se rend à l'atelier Garçon Glacier. On goûte les premières glaces artisanales et locales de l'année confectionnées à partir de fruits issus de l'agriculture biologique. En milieu d'émission, Lucie, tu nous fais un point sur l'actu. Tu nous donnes des nouvelles du ciel avec la météo. Bonjour Lucie.
Bonjour.
On termine cette émission avec un point juridique, non pas au tribunal, mais bien en studio, avec l'avocate de cette émission, Priscilla Mignard. Bonjour Priscilla, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Bonjour Margot. Eh bien, aujourd'hui, le thème, c'est tout ce qui n'est pas interdit, n'est pas pour autant convenable.
On a hâte. Donc, on vous retrouve en fin d'émission. Bienvenue à vous, amis auditeurs. Je suis Margot et c'est une nouvelle émission de l'Agité du local qui commence. Et donc, je le disais, je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Anne-Sophie Denoux. Vous êtes chargée de programmation et de coordination à l'association Lecture en Tête. Lecture en Tête, c'est une association bien connue du territoire, mais peut-être qu'on peut la présenter en quelques mots avant de commencer, Anne-Sophie.
Alors, effectivement, Lecture en Tête a 32 ans. Donc, voilà, on est là depuis un moment sur le territoire, né en Mayenne, en 1992, à Laval. Et donc, c'est une association de promotion de la lecture et de la littérature contemporaine. Donc, c'est accompagner les publics à lire et en particulier de la littérature contemporaine. Et aussi, on met en avant des auteurs contemporains, donc la littérature vivante, par l'organisation de différents événements tout au long de l'année, dont le Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines.
Et donc justement, aujourd'hui, on va parler de cette 32e édition qui, cette année, revient sous le chapiteau sur la place de la Trémoigne pendant 4 jours. Je le disais tout à l'heure, du 4 au 7 avril. Le Festival Premier Roman, c'est un festival de lecteurs, mais pas que. C'est un des seuls en France, d'ailleurs, et c'est un tremplin pour la jeune littérature contemporaine, finalement, Anne-Sophie.
Oui, c'est chaque année, on met à l'honneur 18 primo-romanciers. Alors, des fois, ils viennent tous, des fois, ils viennent pas tous selon leur le travail, les vacances, enfin bref, leur vie plus personnelle et professionnelle. Mais c'est un tremplin pour eux, c'est-à-dire que nous, à partir du moment où on les repère et on les invite au festival, on les suit tout au long de leur œuvre. Donc, quand ils publient un deuxième roman, ils intègrent notre prix littéraire du deuxième roman, leur propose une résidence d'écriture, et puis on les réinvite dans le cadre d'une actualité littéraire en saison. Ou dans une prochaine édition de festival. Donc voilà, ce qui fait que c'est très important pour nous, cette sélection. Et on ne la fait pas à la légère, on est vraiment pointilleux chaque année sur les 18 premiers romanciers qu'on va mettre à l'honneur.
Et alors, on le disait, cette année, 18 romans sélectionnés. Et cette année, le festival accueillera 17 romanciers, justement, sur ces 18 sélectionnés. Les auteurs répondent présents. C'est une chance, ça, pour les Mayennais.
Oui, c'est une chance et pour les Mayennais, qu'ils soient lecteurs ou non lecteurs, et une chance aussi pour les auteurs d'avoir ce genre d'événement qui est, comme on le disait tout à l'heure, un véritable tremplin. Il faut savoir que chaque année, il y a plus de 200 premiers romans publiés en France. Et dans les médias ou en librairie, on ne les retrouve pas tous. Donc, c'est bien aussi d'avoir des événements comme le nôtre pour faire aussi un pas de côté sur ce qui est parfois médiatisé. Nous, on n'est pas forcément regardant sur ce qui est médiatisé, vraiment ce qui est mis en avant, mais vraiment sur ce que nos lecteurs, c'est une sélection de lecteurs et de lectrices, ce qu'ils mettent eux en avant. Et donc, c'est ça qui est important pour nous.
Cette sélection commence donc avec 200 romans, il y en a 18 sélectionnés au final. Est-ce qu'il y a des thématiques qui ressortent particulièrement ou est-ce que justement on est sur des sujets abordés plutôt diversifiés ?
Alors cette année, c'est un petit peu le hasard. On a pas mal de romans qui traitent de thèmes récurrents chez les primo-romanciers, mais comme chez les auteurs plus confirmés. Donc beaucoup abordent les thèmes de la filiation, la transmission, l'héritage familial, ce que l'on transmet d'une génération à l'autre, les violences intrafamiliales. C'est vrai qu'on retrouve ça un peu dans beaucoup de romans. Et puis on a d'autres thématiques qui pointent aussi des enjeux contemporains ou nos dérives contemporaines, comme le culte de la rentabilité, la surconsommation, le voyeurisme, mais l'environnement aussi. On a des sujets un petit peu plus... plus gay. Enfin, l'environnement, tout dépend de quel prisme. Bref. Mais voilà, on a pas mal de thèmes assez récurrents cette année.
Et alors, un coup de cœur personnel peut-être pour vous, Anne-Sophie, sur ces 18 romans sélectionnés ?
Je parlerai de Sarah Mishkin, qui est une jeune auteure poétesse avant tout. Et là, c'est son premier roman. Elle a publié « De minuit à minuit » aux éditions Le Bruit du Monde. C'est un roman en vers libre. C'est un roman très fort, dur, mais très fort. Elle a quoi, 25 ans, elle est franco-tunisienne, elle est très engagée dans ce qu'elle écrit à la fois en poésie et en roman. Et elle a un discours assez militant, donc ça va être une belle rencontre.
Et donc, on le disait tout à l'heure, on se rend compte que le festival fidélise beaucoup aussi, car il y a également des romanciers et romancières repérés par Lecture en Tête il y a plusieurs années, qui maintenant s'engagent sur le chemin de la création. Donc en fait, finalement, c'est culturellement sur l'ensemble du territoire, mais pas seulement dans le monde littéraire, c'est aussi un événement important qui fédère.
Oui, alors ici, comme je le disais, on réinvite des auteurs passés par Laval pour leur premier roman, ou certains ne sont jamais venus parce qu'ils ne pouvaient pas, mais on les réinvite, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des auteurs très fidèles, sur qui on peut compter chaque année ou qui reviennent régulièrement. C'est le cas de Sœur Chalandon, mais on a aussi Velibor Čolić qui revient cette année, Denis Mikulis. Ça, ce sont vraiment des auteurs fidèles, vraiment des amis de l'association. Et puis, j'ai oublié la question, Margot, désolée.
C'est un festival qui fidélise et qui fédère même dans le monde littéraire en général.
Oui, c'est au-delà des auteurs, dans le milieu professionnel du livre, parce qu'on l'entend dire, hein, c'est pas nous qui le disons, mais je sais que les éditeurs motivent leurs auteurs pour venir à Laval au festival du premier roman, que dans la chaîne du livre, on est plutôt connu et reconnu à la fois pour la programmation, mais aussi pour la qualité d'accueil. Alors ça, je ne sais pas en quoi on est différent de d'autres, mais en tout cas, je pense qu'on est, on accompagne nos auteurs. Alors à la fois quand ils arrivent, hein, on les accueille à la gare et on les accompagne tout du long, sans être loup hein, aussi. On les laisse un moment aller à l'hôtel et on les accompagne pas jusqu'au bout de la nuit quand même. Mais on les accueille, puis on les accompagne tout au long de leur œuvre. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la différence. On crée du lien, ce qui est important, comme on crée du lien aussi avec notre public. Pour qu'ils reviennent aussi chaque année au festival, qu'ils lisent les premiers romans, qu'ils s'intéressent à ce que l'on fait et aux auteurs que l'on met en avant.
Et donc si on regarde justement un petit peu cette programmation, le festival accorde un temps particulier pour des ateliers rencontres avec les scolaires. Ça représente 500 collégiens et lycéens de 8 établissements du département. Et donc il y a différents temps prévus spécifiquement pour les scolaires. J'ai pu voir notamment des ateliers d'écriture animés par des écrivains, ateliers de mise en voix et en espace d'extrait. Il y a également des rencontres. Ah oui, une rencontre thématique femmes et sciences avec le Zoom. Donc en fait, les scolaires sont vraiment aussi sollicités pour participer et puis pour marquer un temps autour de la littérature contemporaine. Et ça, c'est important, je pense.
Alors déjà, sur les 4 jours de festival, il y a 2 jours dédiés aux jeunes. Donc ce sont principalement des lycéens de la Mayenne, mais aussi de la Sarthe. On a deux établissements de la Sarthe qui nous rejoignent cette année. Et on a quelques collèges. Et on est sur deux jours où, où les classes rencontrent le ou les auteurs qu'ils ont lus en amont avec leurs enseignants. Alors des fois, il peut y avoir en amont des travaux qui ont été effectués en classe, comme la lecture beaucoup plus libre. Enfin voilà, chaque enseignant a travaillé avec sa classe comme il le souhaitait. Et on les réunit pendant ces deux jours au festival, ils rencontrent leurs auteurs et en parallèle, ils participent donc à des ateliers d'écriture, des ateliers de mise en voix et en espace ou des ateliers thématiques. Mais tous ces ateliers découlent des premiers romans qu'ils ont lus. Donc les thématiques d'écriture, comme les extraits lus pendant les ateliers de mise en voix, comme la rencontre au Zoom, elle est liée aux thématiques abordées dans les romans. Et c'est en fait c'est donner aux jeunes aller au-delà en fait de leur lecture, de ce qu'il en est ressorti, parce que des fois ils lisent pas tout et jusqu'au bout. Et c'est comment pendant deux jours il y a une immersion dans l'écriture, dans le livre, dans la réflexion. C'est les faire aussi sortir de leur établissement scolaire pour parler livre, c'est rencontrer des écrivains vivants. Ils se rendent compte que déjà ils existent, ils sont vivants, voilà. Et que il y en a qui sont très très jeunes, il y en a qui peuvent avoir une vingtaine d'années, d'autres qui ont 60 ans. Enfin voilà, on peut être primo-romancier à 25 ans comme à 60 ans. Donc c'est tout ça et très souvent ce que nous disent les enseignants quand ils leur proposent ce projet-là en tout début d'année scolaire, bon la plupart râlent, hein, ils disent faut lire, on va rencontrer les auteurs, voilà. Et c'est un des événements dans l'année qu'ils retiennent parce qu'il se passe quelque chose, soit avec les auteurs qu'ils rencontrent, soit en atelier d'écriture. Parce que le but, c'est aussi de les faire sortir de leur zone de confort et d'écrire très souvent des choses assez personnelles. En atelier de mise en voie en espace, c'est pareil, c'est de lire les textes à voix haute, se mettre un petit peu en danger. Donc ça les marque en général. Alors pas tous bien entendu, mais ça marque quelques-uns.
Une autre porte d'entrée aussi du coup sur ce qu'est la littérature. Ensuite le 5 avril à 19h15, c'est l'inauguration, donc sous le chapiteau, avec une lecture spectacle. Peut-être quelques mots justement sur cette inauguration, Anne-Sophie.
Oui, alors bien entendu, il va y avoir quelques speeches un peu protocolaires, mais il y aura un concert littéraire ou une lecture musicale. C'est Nathalie Yott, donc Nathalie revient au bercail, je dirais. Elle était venue pour son premier roman il y a 3-4 ans. Et elle revient pour le troisième roman qui s'appelle Le bercail, justement. Et elle nous en fera une lecture accompagnée d'une violoniste. Et ce concert littéraire est en création actuellement avec la Maison de la Poésie à Nantes. Ce soir, il y a la première représentation et donc nous, on l'accueille la semaine prochaine. Donc voilà, c'est une toute création récente autour d'un texte littéraire assez poétique aussi et un accompagnement avec une violoniste et puis je pense quelques sons électroniques. Voilà.
Donc on commence le festival en musique et en lecture le 6 et le 7. On continue avec des cafés littéraires, des lectures, des entretiens, tables rondes, films, débats sur des thématiques différentes. Et comme on le disait, les thématiques abordées sont des problématiques de notre époque et de nos vies. On va puiser finalement dans les thématiques des différents romans qui sont sélectionnés cette année. C'est ça l'idée, Anne-Sophie ?
Oui, c'est ça. Alors, sur le week-end, il y a à peu près une quarantaine de rendez-vous avec des formats très différents. Donc, ce qu'on appelle nous cafés littéraires ou tables rondes, c'est quand on réunit deux ou trois auteurs autour d'une même thématique, et qui en général une thématique en lien avec leur roman. Mais on a aussi des lectures croisées, c'est des petits formats de 30 minutes. Où on se fait, il y a deux auteurs, un primo-romancier et un auteur confirmé, qui vont lire chacun un extrait de leur livre, mais toujours en lien avec une thématique. Et le but après, c'est qu'il y ait un petit échange autour de cette thématique-là. Voilà, il y a des séances dédicaces, il y a aussi lecture spectacle. Voilà, il y a différents formats. où chacun peut aussi, voilà, c'est comme c'est un festival, on consomme, c'est comme un festival de musique, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce qu'est un festival littéraire, mais voilà, un festival de musiques actuelles, vous avez plusieurs scènes, plusieurs artistes, et bien là c'est la même chose, on a trois scènes, il y aura trois rencontres simultanément, et puis on arrive, on s'installe, on écoute, si on n'aime pas, et bien on passe à une autre scène, voilà, on va écouter ailleurs. On a la librairie du festival qui fait 100 mètres carrés, une centaine de mètres carrés cette année, qui est portée par la librairie du Marais à Mayenne et la librairie Je Bouquine. Et puis on a un espace café, parce que c'est bien aussi de se détendre, hein. On peut écouter, se détendre en même temps et boire un verre. Et donc voilà, c'est un lieu assez qu'on a pensé de façon très cocooning, avec beaucoup de simplicité, d'authenticité, et que quand on y entre, eh ben le but c'est de se sentir bien, parce que c'est pas simple d'entrer dans un lieu qu'on ne connaît pas. Bon, là, c'est un chapiteau, c'est assez facile, puisque ça reste assez populaire, hein, l'idée du chapiteau. Mais un festival littéraire, oui, ça peut faire peur. Donc, on ne demande pas aux gens d'arriver, de forcément être obligé de poser des questions. Non, là, on a des modérateurs professionnels pour ça. Mais voilà, c'est de venir écouter. Et par le biais de ces romans, en fait, on parle de notre société d'aujourd'hui, du monde, de notre monde, des grandes questions universelles. On parle aussi d'amour, on parle d'humour. Il y a de l'humour, il y a plein de choses. Enfin, voilà.
Tout le monde peut s'y retrouver dans ces thématiques, au moins à l'épuiser dans celles qui nous touchent peut-être le plus. D'où l'importance d'aller jeter un coup d'œil sur la programmation, sans doute dès maintenant, pour aller bien noter dans nos agendas les temps qui nous intéressent le plus et qu'il ne faut surtout pas manquer. Mais on le rappellera tout à l'heure, en fin d'entretien. Il y aura également donc la remise du prix littéraire du deuxième roman, qui sera remis cette année à Benoît Coquille. Et alors, on pourra découvrir également le monde de l'édition. Je pense que c'est important de le dire, avec une rencontre avec deux maisons d'édition, Le Bruit du Monde et Les Avrils. Ça se passe le samedi 6 avril à 17h45. C'est un peu les coulisses, finalement, de ce monde de la littérature.
Oui, parce que le métier d'éditeur, c'est assez confidentiel. On ne sait pas, en fait, c'est quoi un éditeur et comment travaille une maison d'édition, qu'est-ce qu'elle fait pour les auteurs. Donc de temps en temps, c'est bien au festival de rappeler ce qu'est la chaîne du livre. Donc là, le milieu de l'édition. Et on a proposé à deux jeunes maisons d'édition. Elles se sont créées. Il y en a une en 2000 et l'autre en 2021. Donc les éditions Le Bruit du Monde, qui est une maison d'édition marseillaise, et Les Avrils, une maison d'édition parisienne, d'expliquer un peu le travail qu'elles font avec les auteurs, quelles sont leurs lignes éditoriales, puisqu'une maison d'édition, il y en a qui vont publier la littérature francophone, d'autres purement française, d'autres étrangères, d'autres de la poésie, de la BD, etc. Enfin voilà, de comprendre leur ligne éditoriale et comment elles accompagnent aussi les auteurs. Et l'intérêt aussi pour ces maisons d'édition d'avoir des événements comme le nôtre ou des prix littéraires, etc. Et c'est très important, je vois que même pour les jeunes, parce qu'on a quand même des filières au lycée avec HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, où beaucoup de jeunes sont intéressés par le milieu d'édition. Là, c'est le moment de venir de découvrir. Et là, officieusement, on a aussi d'autres éditeurs qui viennent cette année au festival, mais qui ne sont pas sur un plateau. Mais on a les éditions Gallimard, l'Observatoire, les éditions Noir sur Blanc et les éditions Casterman, qui est une maison d'édition jeunesse, qui viennent cette année voir leurs auteurs, enfin accompagner leurs auteurs, mais aussi découvrir ce qu'est notre festival.
Donc le festival, finalement, pour résumer, on peut dire que c'est un temps de rencontre, un temps d'échange, un temps de curiosité et un temps qui propose énormément de rendez-vous. Donc l'entièreté du programme, on peut le retrouver sur le site internet, si je ne dis pas de bêtises.
C'est bien ça. Et puis juste pour finir, au-delà de rencontres littéraires, on a aussi des pas de côté. On a une projection de deux courts-métrages autour d'Haïti qui aura lieu à l'avant-scène avec aussi en partenariat le Atmosphère 53. On a aussi une exposition. Donc voilà, on fait aussi des pas de côté sur le pur littéraire, mais au bout du compte, on parle de la même chose. Voilà.
Donc l'entièreté du programme et donc de ses pas de côté également est à retrouver sur le site internet du Festival du Premier Roman et des Littératures Contemporaines. Merci Anne-Sophie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci
pour cette présentation du festival. Avant de passer à l'actu en bref avec Lucie, aujourd'hui on vous propose d'écouter la version color show de un ou deux titres et on commence avec Yamé et son titre Bécane.
Bitch, ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan. N'écoute jamais les on-dit, ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde. J'ai beau parler dans leur langue, mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence. Je me faufile en balle sans les mains, tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent. Sans caracher quand t'as négro, j'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand. Nindé sans cara, sans chicot, ouais je fais qu'écro bien plus que les grands de tes grands. J'étais ma paille, ils sont pas concentrés, j'attends pas la passe, ils peuvent pas s'entrer. Je suis bantou, me parle pas de basané, on n'est pas venu ici pour se pavaner. Remballe ta CG, mais cessez. Je tourne la poignée, je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais, bah ouais. Je chante la bécane. Je fous la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que des pas au départ en enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer. La craide à focaliser. La haine que je ressens dans mes pensées. Dans ce business balisé. Ouais. Chant la bécani. Cani. Ouh. Et chant la bécani.
Allez, c'est parti pour les actus. En bref, chers auditeurs, et pour commencer, à Laval, les élus ont voté la rénovation du bateau lavoir Saint-Julien. Mais ça ne se fera pas tout de suite. Par contre, il faudra attendre septembre 2024 lors des prochaines écourues, c'est-à-dire la mise à sec de la Mayenne. De son côté, la préfecture a communiqué sur un plan de soutien spécifique à l'agriculture biologique. Un deuxième dispositif d'indemnisation exceptionnel est mis en place et sont concernées les exploitations totalement engagées en agriculture biologique, en conversion ou étant spécialisées en agriculture biologique à plus de 85%. Petit retour à Laval à nouveau, le recrutement se poursuit dans le cadre de la Convention citoyenne pour les quartiers populaires. Dans les faits, depuis lundi, des agents de la ville vont à la rencontre des habitants pour faire connaître le dispositif de Convention citoyenne pour les quartiers populaires et susciter des candidatures. À la suite de tout ça, une première session de travail aura lieu à l'Hôtel de Ville de Laval les 19 et 20 avril prochains, avec une cinquantaine d'habitants, et ils y travailleront ensemble sur des propositions et mesures concrètes dans le but d'améliorer les conditions de vie et favoriser le faire ensemble. Allez, quelques petits rendez-vous pour conclure tout ça, chers auditeurs. Au Théâtre du Tiroir, pour commencer, Suzanne Sans présentera Mozart, sa vie, son œuvre, le dimanche 31 mars à 16h. Vincent Rouard, de son côté,
présentera des contes amérindiens du Québec samedi 6 avril à 16h et dimanche 7 avril à 16h également. Si vous l'aviez loupé, il était également passé dans le cadre des Reflets du cinéma. Et puis sans oublier, les mercredis de la paix continuent et le prochain sera intitulé « Palestine, histoire d'une terre » et ce sera mercredi 3 avril à 20h. Et si vous êtes plutôt dans le Nord Mayenne, ne vous en faites pas parce que mardi 9 avril, vous serez gâtés. C'est à Copainville, à Mayenne, qu'il y aura la 16e saison de l'Espace Compteur à 20h15. L'entrée est au chapeau, n'hésitez pas à ramener à boire ou à manger ou carrément vos textes. Et côté météo, j'ai presque envie de ne pas vous faire le point, chers auditeurs, mais je vais finir par m'attirer vos foudres. Bah oui, parce que cet après-midi, c'est averse orageuse partout sur le territoire avec 9-10 degrés et des rafales à 75 km/h. Ce soir, plutôt 8 ou 9 degrés et un ciel très nuageux, voire des pluies éparses dans le sud du département. Toujours des rafales qui soufflent un peu moins fort à 55-60 km/h dans la soirée. Et les températures vont doucement descendre à 6-7 degrés. On continuera sur des pluies éparses partout pendant la nuit. Donc ce soir, pour Ethan et Zoé, ce sera plutôt tisane et dessin animé avec mamie que ballon dans le jardin. Et demain matin, le réveil devrait être un poil plus agréable avec 9-10 degrés et seulement des nuages. Par contre, toujours quelques rafales à 45 km/h. Le vent va rester avec nous pendant l'après-midi avec des pics à 55 km/h. Décidément, on dirait qu'il aime bien notre compagnie. Et toujours des nuages, mais un peu moins de fraîcheur. On remontera à 11-12 degrés avant de retourner progressivement le soir à 8-9 degrés à nouveau, puis 7-8 degrés la nuit. Et dans le ciel, pas de surprise d'ici la nuit de demain, surtout des nuages, un ciel gris et des pluies éparses qui reviennent par l'est pendant la nuit. Bon, Zoé, ça la déprime un peu tout ce gris, mais heureusement que son grand frère Ethan est là pour lui remonter le moral.
Et oui, c'est bientôt la saison des glaces.
Attends Margot, rassure-moi, tu parles bien de celles qu'on mange.
Oui, exactement. Depuis 2018, l'atelier Les Garçons Glaciers confectionne des glaces artisanales et locales au cœur d'Angers. Les deux fondateurs, amis d'enfance, proposent de nouvelles saveurs originaires du terroir angevin. Pour cela, ils sélectionnent et cueillent eux-mêmes les fruits issus de l'agriculture biologique qui composent chaque sorbet. C'est donc notre reportage Pensée locale de la semaine. Il est signé Solène Bertrand de Radio G qui est allée à la rencontre de François, l'un des créateurs de Garçons Glaciers. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
On a un parfum vanille tonka qui sort franchement de l'ordinaire, très, très peu de sucre. Vanille plus la fève tonka, ça fait vraiment un parfum que je trouve sublime, qui s'accompagne avec tout, gâteau au chocolat, des fruits frais, etc.
François est un des deux créateurs des Garçons Glaciers. Garçons Glaciers, une aventure de fabrication de glace artisanale. Plusieurs mots d'ordre, bio, local, gourmandise et surtout authenticité des saveurs. Sur les marchés, à l'occasion d'événements, avec leur vélo glaciaire ou le Piaggio, François et Manuel se font porte-parole des saveurs retrouvées. Un lien indiscutable les unit au territoire angevin. François Blourde nous fait la visite des coulisses de la fabrication.
Donc ici, on est place Lafayette à Angers, en plein cœur du centre-ville d'Angers, derrière la gare, près du commissariat. On est dans le laboratoire de fabrication, donc il n'est pas un espace dédié au commerce, mais bien à la fabrication, même si du lundi au samedi, on est ouvert au public. Et donc là, nous sommes sur la réserve de stockage, où on stocke nos fruits secs, le miel, toutes nos épices, etc. Et donc juste sur notre gauche, on a vraiment le laboratoire de transformation, là où on élabore les purées de fruits, là où on prépare les mix, et là où on turbine et conditionne la glace.
Et comment est venue l'idée de faire de la glace à Angers ?
Alors, très bonne question. L'idée de faire de la glace, moi, c'était par rapport à mon passé professionnel. En l'occurrence, la position que j'avais à l'époque, c'était de monter des laboratoires pour les boulangers, les pâtissiers, les glaciers, les chocolatiers. Et il se trouve qu'à l'époque, on n'avait pas de glacier à Angers. Et j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était déjà d'une dommage qu'il n'y ait pas de glacier à Angers. Et donc du coup, ça voulait dire qu'il y avait une place à prendre. Et ça, c'était il y a 6 ans et depuis maintenant, on est plusieurs. Ce qui permet de créer un marché et d'avoir un référentiel qui est un petit peu différent. Les gens peuvent comparer un petit peu la démarche qu'on appelle conventionnelle ou celle qui est la nôtre, c'est-à-dire issue de l'agriculture biologique avec un cahier des charges de qualité, etc.
Donc c'est une action locale. Comment tu fais pour avoir tous tes composants de glace, les fruits, localement ?
Ben, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps à la création de l'entreprise, de faire un sourcing des paysans bio qui allaient accepter notre démarche de qualité, c'est-à-dire de laisser mûrir les fruits dans les arbres. Mais pour autant, pour nous, d'avoir des fruits à maturité, c'est des fruits avec beaucoup plus de sucre, avec du goût, de l'odeur. Et pour le produit transformé, ça fait vraiment toute la différence. Donc l'enjeu, il a vraiment été là-dessus, de les convaincre, de nous accompagner et de rentrer dans notre démarche de qualité.
Là, je suis en train de préparer, je découpe les suprêmes de citron pour préparer la purée de fruits citron.
Augustin, en stage avec François, coupe du citron. En formation, il a choisi les garçons glaciers pour leur valeur et leur éthique.
Je pense que c'est hyper important parce qu'on est dans une société où de plus en plus les gens s'informent sur ce qu'ils consomment. Et donc, c'est hyper important de s'approvisionner convenablement et de manière locale.
Premier point qui change vraiment les choses. Nous, on s'est monté au mois de juin et au moment du mois d'août, c'était l'époque des Reines Claude. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a transformé des denrées donc locales, des Reines Claude, et on a offert aux Angevins, même plus largement, à notre clientèle, un sorbet plein fruit à la Reine Claude. C'est quelque chose qui, à l'époque, n'existait pas. Je ne vais pas dire qu'on était les premiers à le faire, mais en tout cas, sur nos latitudes, c'est sûr que les gens n'avaient pas mangé de sorbet Reine Claude. Et les Angevins sont chauvins et ça nous a vachement rendu service parce que là du coup ils ont vraiment compris la preuve par l'exemple que ça allait être une jolie aventure parce qu'on allait transformer des denrées locales et qu'en plus ça allait être délicieux. Donc là je crois que vraiment à partir de ce point là on a conquis le public, on a trouvé notre clientèle et ensuite ça n'a fait que d'aller dans ce sens là puisqu'on s'est mis à développer des poires qui étaient sur nos latitudes, les kiwis d'Anjou, les gens, même on a une certaine mission éducative puisque les gens n'avaient pas forcément conscience qu'on avait des kiwis qui poussaient sur notre territoire, etc. Donc ça a été de plus en plus dynamique à ce niveau-là.
Avec leur saveur authentique, les garçons glaciers ont su conquérir le public. Toujours prêts à échanger sur l'agriculture bioresponsable, rencontrez-les sur les marchés. C'est facile de les reconnaître, un piaggio et un triporteur aux couleurs de la glacerie, bleue et blanche. Ou tout simplement sur lesgarçonsglaciers.fr.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage réalisé par Solène Bertrand.
Et donc vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Eh bien c'est le moment de notre rendez-vous avec Maître Mignard, Priscilla, on vous écoute.
Oui, mes petits diables, mes petits avocats du diable s'habillant Prada. Une fois n'est pas coutume, je commence par une citation de Winston Churchill. Tout ce qui n'est pas interdit n'est pas pour autant convenable. Alors pour les Forrest Gump qui nous écoutent, Winston Churchill, il ne s'agit pas du créateur d'une marque de cigarettes, mais de l'ancien Premier ministre britannique qui a œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, il œuvrait en 39-45 pendant que votre grand-père dénonçait son voisin de palier parce qu'il ne travaillait pas le vendredi soir. Je pose ça là, Mazel Tov. Ainsi, Churchill disait « En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. » En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En URSS, tout est interdit, même ce qui est permis. Bon, a priori, pour la Russie, grande terre de liberté, il avait tort, Churchill. En revanche, pour la France, ça se discute. En effet, le roi Arthur lui-même disait « Vendredi, tout est permis ». Bref, cette histoire est aussi compliquée que de faire semblant d'être hypnotisé par Mesmer, parce que quand même, faudrait pas niquer son business. En réalité, mes défenseurs de la veuve et du fifrelin, le droit français est moins permissif que ce que prétendait ironiquement le gros bonshomme bourru. Je parle toujours de Churchill, pas de Jean-Marie Le Pen.
Et alors, Priscilla, que dit le droit français ?
Eh bien, selon l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Si la loi interdit expressément un comportement, on peut en déduire a contrario que tout comportement différent de celui qui est interdit est alors possible. Bon, c'est bon, je vous ai pas perdu, mais Jordan Bardella de la Fraternité, je pressens quand même 2-3 AVC parmi les auditeurices, mais je continue, hein. Je suis pas la nounou de Lynn Renault, moi. Bref, pour illustrer cette maxime, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, je vais vous donner un exemple en droit pénal. Si aucune règle ne vient sanctionner un comportement, celui-ci est donc autorisé. Prenons le cas des acrobates urbains qui éteignent les lumières des commerces en sautant sur les murs pour descendre les disjoncteurs, tels des Jean-Luc Mélenchon surexcités, pardon, pléonasme, en mode Kung Fu Panda qui hurle « Le réseau électrique, c'est moi !» Eh bien, cette action n'est pas considérée comme un délit par le code pénal, donc c'est légal, même si c'est contre la volonté des commerçants en question. Et même si les kangourous du zoo de Beauval entendent attaquer Jean-Luc Mélenchon pour mauvaise imitation, hashtag jurisprudence Nicolas Canteloup. Attention, néanmoins, il ne faut pas confondre les actes militants avec le fait d'éteindre la lumière de mamie en multipliant la dose de ses médicaments par 10, même si c'est pour accélérer ses dernières volontés et économiser sur les frais d'EHPAD.
Ah, parce que ça ne se fait pas.
Non, non, Margot, c'est interdit. Après, si elle s'appelle Chantal Goya et que c'est pour l'empêcher de refaire une tournée Bécassine on Fire, c'est toléré. Donc la France est un pays d'une grande liberté où tout est possible, sauf à prouver l'existence d'une loi contraire. Mais vous me direz, attends Priscilla, n'oublie pas que non omne quod licet, ognestum est. Ah purée, le retour du latin, ça fait du bien. Donnez-moi une toge des esclaves où je vous fais un malheur, malorum, malorus. Ainsi, selon cet adage, tout ce qui n'est pas interdit n'est pas pour autant convenable. Donc ce n'est pas parce qu'aucune loi ne condamne un type de comportement qu'on peut tout se permettre. J'ai une suggestion d'ailleurs. Faire un marathon de films de Steven Seagal devrait être interdit par la loi. Parce que ce sont les mêmes mecs, oui je dis mecs parce que jamais aucune femme ne s'infligerait ça, que tu retrouves sur des vidéos YouTube ensuite à essayer de casser des planches de bois ou de ciment avec leur tête. En même temps, vu de qui ils sont fans, ils n'ont pas besoin de conserver leurs neurones, donc c'est peut-être un bienfait pour l'humanité, finalement.
Alors, si je comprends bien, vous n'êtes pas fan de Steven Seagal.
Marco, vous êtes vraiment très perspicace. Et oui, pas de fanatitude envers le jeune homme au catogan. Mais pour résumer et en revenir à notre chronique, en droit, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sous prétexte qu'aucune loi ne l'interdit. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit, car celui qui abuse de son droit, doit répondre des dommages qu'il cause autrui. Ah, sacrée langue qui fourche, à autrui. Par conséquent, on ne peut pas faire n'importe quoi sous prétexte que ce n'est pas interdit. C'est ce qu'on appelle l'abus de droit. Bon, PPDA, lui, il dit abus de proie, chacun son lexique. En tous les cas, cette notion d'abus de droit est une création jurisprudentielle.
Alors Priscilla, ça veut dire quoi jurisprudentielle ?
Eh bien d'abord, Margot, c'est un mot qui rapporte 30 points au Scrabble, et ce n'est pas négligeable quand on veut fermer le clapet à dentier de Mamie Jocelyne. Évelant dans les dents, sans fixe aux dents. Pour schématiser, c'est l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont rendu les cours et les tribunaux pour trouver une solution juridique à une situation donnée. En l'occurrence, pour l'abus de droit, c'est le fameux arrêt de 1915 de la Cour de cassation, dénommé du nom des parties en cause, Coquerel contre Clément Bayard. Dans les faits, un propriétaire, M. Coquerel, avait installé sur son terrain attenant à celui de son voisin, M. Clément Bayard, des carcasses en bois de 16 mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues. Le problème étant que le fameux voisin, M. Clément Bayard, aimait bien faire des sorties en ballon dirigeable. Bah oui, s'amusait bien, hein, surtout quand il n'y avait pas encore la fibre en 1915. Encore un qui ne devait pas beaucoup s'occuper de ses gamins. Pas besoin d'être Baba Yaga, du coup, pour prédire que le dit ballon dirigeable a heurté la construction sur le terrain de M. Coquerel et patatras, tout s'est déchiré. Bonne blague néanmoins de la part de M. Coquerel. Mais la Cour de cassation a considéré qu'il y avait un abus de droit de propriété de la part de M. Coquerel, car même si ce n'est pas interdit de mettre des carcasses et des pics de métal sur son terrain, dans ce contexte, il a été reconnu une intention de nuire à son voisin. Encore deux qui ne feront pas de barbecue ensemble cet été. Au passage, big up à mon voisin Jojo le ferrailleur et à sa pyramide de 25 épaves de Seat Toledo qui embellissent la vue de chez moi. C'est pas interdit, mais c'est quand même un crime contre la nature et contre la logique quand on imagine qu'autant de beaufs ont pu acheter une Seat Toledo. Dédicace à mon prof de PS, Monsieur Réolon. Ainsi, la théorie de l'abus de droit permet de contrôler l'exercice de ces fameux droits afin qu'ils ne soient pas utilisés de manière déraisonnable, disproportionnée ou malveillante. Il n'existe pas de critères précis, mais il s'agit de reconnaître un comportement abusif. Pour conclure, restons sur nos gardes, mes rares surveillants pénitentiaires non tortionnaires, car si abuser d'un droit est sanctionnable, la liberté ne doit-elle pas rester la règle tant qu'elle n'empiète pas sur celle des autres ? En espérant qu'on soit traité pareillement, bien sûr, qu'on empiète en moon boots et rame ou en loup boutin. je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup Priscilla, merci beaucoup. L'Agité s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à Anne-Sophie de Lecture en Tête d'avoir été avec nous. Merci à Priscilla, merci à toi Lucie. Et donc je clôture cette émission rapidement parce que nous on coupe nos micros, mais d'autres souffrent sur l'autre radio. Et donc à 19h, on écoute la sagesse de Tug qui pose une question. Aujourd'hui, la philosophie ne nous libère de la tyrannie de l'opinion que pour nous plonger dans l'embarras. Il vous interpelle, chers auditeurs, pour savoir ce que vous en pensez. À 21h, c'est All Blues qui aujourd'hui fait un focus sur les nouveautés blues avec notamment le dernier album de Katharina Péjac. Et donc, nous, on se dit à demain pour une nouvelle émission. Nous serons en compagnie de Christophe André, psychiatre et psychothérapeute. Christophe André, c'est aussi l'un des chefs de file des thérapies comportementales et cognitives en France, qui a été l'un des premiers à y introduire l'usage de la méditation de pleine conscience en psychothérapie. Il sera en conférence à Mayenne le 30 mars avec l'association Les Amis de Fontaine Daniel à l'occasion de la sortie de son dernier livre « S'estimer et s'oublier ». La conférence est complète, mais nous aurons la chance demain de parler d'estime de soi avec lui pour bien commencer le week-end. D'ici là, lisez des livres, racontez-vous à votre manière des histoires, de belles histoires et surtout, faites-le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.